Michou parfois voudrait lui faire comprendre, mais il y a trop d'images dans son œil. Lorsqu'on parle, c'est toujours pour dire des insignifiances. Dans combien de jours papa revient-il? Ou des choses qui font mal. Mon pauvre Michou, ton papa, je le crains. Ne pense plus beaucoup à nous, tu vois. Il n'écrit même pas. On voudrait oublier les mots qui rendent le ciel moins bleu, le paysage aussi terne qu'une photographie. Mais les mots ne se laissent pas aisément oublier. Pourquoi dis-tu cela? Ça te fait de la peine, Michou? Mais tu le comprendrais toi-même. Tôt ou tard, ton papa ne sera plus jamais ce qu'il a été pour nous. Bien heureux s'il ne te donne pas une autre maman. Une maman comme toi? Que deviendras-tu, toi? Moi, je suis vieille. Je ne vais pas tarder à mourir. Non, une maman comme Irène. Mais tu ne seras pas son petit garçon. Elle ne pourra pas t'aimer comme je t'aime. Mais papa, je serai toujours son fils. Oui, j'espère. Je ne sais pas. Zut, pense Michou rageur. Il voudrait de nouveau voir une botte de radis dans la colline qui marche et la prairie monter vers lui. La volonté n'y est pour rien, et la prairie et la colline n'y sont pour rien, elles non plus. Si papa ne m'aime plus, dit Michou calmement, quand tu seras morte, je m'en irai. Je m'engagerai sur un bateau et je piloterai des avions en Amérique. Le paysage est pareil à une photographie, mais cela lui est bien égal désormais. Il ne veut plus rêver ni jouer. Il veut voir les choses comme tout le monde les voit. Il se sent poussé des ailes d'homme. Et que ferais-tu si je continuais, te connaissant, d'avoir des aventures? C'est la première soirée de Françoise à Istres. Prononçant la phrase, Jean se la reprochait, comme il se reproche maintenant d'attendre impatiemment la réponse de Françoise, sa réaction plutôt. Les femmes ne répondent pas à ce genre de questions, mais un regard, un rire, une moue, une expression ironique ou figée dépeint et juge. Elle détachait sa gaine, elle se tourne vers lui, nue, l'interroge des yeux, puis elle dit « La question n'a pas de sens. Si tu en es capable, c'est que tu ne m'aimes pas. Et que faisons-nous ensemble? Tu veux dire que tu me quitterais pour une passade ?» Il a tort d'insister, tort de sourire, mal, comme grimacerait un enfant en faute, pour donner à croire que sa faute ne fut pas si grave. Tort d'offrir de lui cette fausse image à Françoise qui ne la mérite pas. Tort d'humilier leur amour. Déjà, n'a-t-il pas détruit le meilleur? Sa peine ressemble à celle qu'il éprouve quand, pour mettre son poisson en vrille provoquée, il croise les commandes, passe de l'ordre au désordre, de la paix au péril, tout en sachant très bien que ça ne se fait pas, que l'appareil n'a pas été construit pour ça, que l'appareil souffre. Ah, c'est idiot. La marche de la femme, quand elle s'approche du lit, n'est plus une danse, mais un piétinement maladroit. La femme. Un jour qu'il disait d'elle, « Ma maîtresse », elle lui a demandé de ne plus employer ce mot qu'elle détestait. Ni l'épouse, ni l'amie, la femme. Le visage de la femme a retrouvé ses dimensions humaines. Si triste tout à coup que Jean a honte, alors il se met en colère. Tu n'aurais pas dû me répondre cela, pas à moi. Maintenant, notre liaison va m'apparaître comme un obstacle, c'est cela une barrière à ma liberté. Je ne peux pas supporter de n'être pas libre. Mais tu l'es, Jean, dit-elle penchée sur lui. Entièrement libre, et de me quitter quand tu voudras. Seulement, tu ne peux pas faire, ni moi, que notre amour ne soit pas ce qu'il est. Couché près de lui, il ne la prend pas. Ils sont allongés sur les couvertures, par cette chaude nuit de juin. Il s'étonne de pouvoir regarder impassible ce corps qu'il connaît mieux que le sien même, sans le toucher d'un doigt. S'il le touche, il est emporté, submergé par la soif, pleine comme un flot de s'y perdre. Jouer au joueur, d'urgence. Attends un peu, ma chère Françoise, attends un peu. Je ne peux pas te promettre de changer en un jour, mais j'essayais. C'est vrai, tu prenais dans ma vie une place de plus en plus grande. Maintenant, tu sais ce que je vais faire? Je suis capable de te tromper avec la première venue pour voir. Il s'enferre, il s'enlise et il ne l'ignore pas, mais il lui faut savoir. Une vrille encore, deux, trois. C'est de sa faute à elle. Si elle disait ce que normalement elle devrait dire, ne sois pas enfant, mon chéri. Ou si elle en aurait le droit à son tour, elle cédait à la colère. Quel soulagement! Au premier mot, il se jette hors du lit. Mais non, elle glisse sans qu'il l'y aide, son bras droit sous la nuque de Jean. Elle l'entoure de ses bras. Ses bras et son visage brûlent. Il lutterait contre des mots. Il ne le peut contre la joie que sa chair éprouve à toucher l'autre chair. Elle lui a dit un jour « Ma peau aime ta peau. » Tout ce qu'il peut, c'est avouer. Je ne veux pas te mentir, Françoise. Il arrivera n'importe quoi, mais je ne te mentirai pas. Cet aveu est un refus. Elle le comprend ainsi. Tais-toi, dit-elle, et il se tait. Beaucoup plus tard, elle parle de nouveau, ils n'ont pas bougé. La joie d'être ensemble engourdit la peine causée par les mots. Peux-tu me dire, Jean? Il ne reconnaît pas la voix et ne veut pas tourner la tête. Un troisième être est là, entre eux. Une petite fille malheureuse, mais inflexible. L'acier dont elle est faite vibre dans sa voix. Parles-tu pour l'avenir ou bien... Je parlais d'hier, dit-il. J'avais envie de cette fille et je l'ai prise. Il voudrait se tourner vers elle maintenant et dire « Pardonne-moi ». Mais l'acier dont il est fait n'est pas d'une qualité moindre. Si je me tourne vers elle, je suis perdue. Si je lui promets quoi que ce soit, je... Il regarde le plafond et se laisse pénétrer par la chaleur des bras de Françoise. Mais combien la tente est plus froide que les bras de Françoise ne sont chauds. Alors, que décides-tu? Je ne sais pas, dit-elle. Et les bras se retirent. Jean demeure seul, au milieu du lit, prisonnier de sa liberté, pareil à la solitude. La nuit n'est pas pure. Ou bien la chambre sent mauvais, parce que Michou n'ouvre plus sa fenêtre depuis l'aventure de la chauve-souris. Il y a des raies dans le ciel que Michou voit de son lit. Il sait que ce sont les projecteurs de Villaroche, mais ça ne lui sert pas de le savoir. Les raies qui trouent la nuit l'empêchent de dormir. Non d'imaginer en éveil des messages que s'enverraient d'un bord à l'autre du monde des âmes en péril ou des enfants sans mère. Un signal de la reine à tous ses commensaux. La terre n'est pas perdu dans l'espace. Tout est prisonnier de quelqu'un ou de quelque chose, l'enfant de ses parents et de ses maîtres, et le ciel de même, la lune, les étoiles de quelque univers clos comme une soupière. On croit qu'on peut sortir, mais c'est une illusion. Voilà pourquoi on parle tant. Les mots nous donnent l'illusion qu'on peut sortir, parce qu'ils sortent de nous, par la bouche. Michou fait la grimace. Il pense maintenant à des trucs sales, au pipi, au caca, ces gros morceaux rouges que Georges lui a dit qu'on fait sortir de soi quand on est à l'âge d'homme, il a voulu emmener Michou au cabinet pour lui montrer, mais Michou a refusé. Il tient à ne rien savoir des filles non plus. Il se veut pur, avec la même passion qu'il se veut libre. C'est un seul élan du cœur. Mais à quoi bon ? Dit une pensée minable, si on est enfermé. Qu'il est donc seul, Michou, dans sa petite chambre obscure, sous les rayons alternatifs, tout seul dans le monde à penser ce qu'il pense, puisque papa lui-même, et qu'on n'est pas un homme, qu'on ne peut pas piloter un avion de chasse, avant d'en être passé par là. Michou a très chaud, il transpire, il passe les mains le long de son corps, tout mouillé de sueur. J'ai de la fièvre, c'est sûr. Il vaudrait mieux que j'appelle maman. Mais on ne peut pas toujours s'en remettre aux autres. Il faut apprendre à se débrouiller. Si la reine prend papa, si maman meurt, il ne dormira pas cette nuit. Et s'il ne dort pas, cette nuit, il aura mal au cœur demain pendant la composition d'anglais. Il faudrait se lever, fermer les volets, mais alors il serait plus seul encore, plus enfermé. Peut-être a-t-il envie de faire pipi. Voilà que ça recommence. Des choses rouges, a dit Georges. C'est tout de même bizarre qu'on ait en soi des choses rouges. Des vers ? A demandé Michou dégoûté. Mais ce ne sont pas des vers. On pourrait essayer peut-être, rien qu'une fois pour voir. Michou aime essayer. Il a fumé l'autre semaine une cigarette, la moitié. Non, le tiers de la cigarette. Il ne fumera plus, c'est mieux comme ça. Il peut maintenant dire à son père « Je ne comprends pas le plaisir que tu trouves à fumer. » Et papa est bien obligé de rire et dire que Michou a raison, qu'il ne le comprend pas, lui non plus. Peut-être que, s'il savait pour l'autre chose, rouge, il serait plus fort aussi pour dire à Georges « C'est idiot !» et à son père « Voyons, papa, ce n'est pas drôle du tout !» Peut-être qu'une parole comme celle-là, appuyée sur l'expérience, sauverait son père. Peut-être que ces trucs-là ont à voir avec la reine des chauves-souris. En fait, il est certain que ces trucs-là ont à voir. Les ensorceleuses, les fées, les armides, les circées, comment prennent-elles les hommes ? Comment les retiennent-elles dans les raies de leur duplicité ? Toujours, le héros se heurte à la reine des chauves-souris. Comment est-ce qu'on fait, Georges ? Tu prends le truc, tu tires, tu frottes et ça devient dur. Il disait même, si dur, mon vieux, que tu peux percer une femme avec. Depuis ce jour-là, si Michou ferme les yeux en y pensant, il voit son père transperçant des femmes, à la chaîne. Mais cela le gêne d'y penser. Sûrement, Georges s'est trompé, Georges le hableur, sûrement, ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, Michou essaie. Et il n'est pas heureux. Pelotonné sur lui-même, enfermé tout à coup, dans des murs plus étroits que ceux de sa chambre et de la nuit, il lui semble tenter un voyage à rebours, un retour aux origines, quand il était ainsi, ou presque ainsi, un œuf dans le ventre d'Irène. La nausée qui le prend l'oblige à s'interrompre. Il voudrait hurler, mais tout ce qu'il fait, c'est d'enfoncer son visage dans le traversin. Il aimerait bien mourir. Jean venait de recevoir l'ordre d'effectuer le traditionnel essai de nuit pour vérification des loupiottes quand la radio lui annonça la mort de Basil Bosch. Un accident stupide au cours d'un vol idiot sur un zinc sans surprise. On n'y comprenait rien, sans doute parce qu'il n'y avait rien à comprendre. Les techniciens ont trop tendance à croire que tout se ramène à la technique. Il est bon que parfois des accidents comme celui-là leur rappellent que le pilote n'est pas une machine, que son comportement, tôt ou tard, échappera aux approximations des statistiques. Mais Basile est-elle meilleur copain de Jean? Copain? Un véritable ami. Jean connaissait les tracas de toutes sortes qui l'accablaient dans sa vie quotidienne. La femme, toujours malade. Les parents, plus très valides. Et des soucis pécuniaires incroyables, en grande partie causés par l'affection que Basile portait à son frère, perpétuel failli. Un type bien, Basile, pas son frère, mais précocement vieilli par les emmerdements. Sa mort ne surprendrait personne. Pourtant, Jean éclata de rage en l'apprenant. Les vaches! L'injure ne signifiait rien. Elle n'eût pu viser que le commandant, Rolla, fautif d'avoir laissé voler Basile en perte de vitesse. Mais Jean aimait son chef et il n'ignorait pas qu'il est bien difficile de déceler chez un homme l'imperceptible faille qui, en quelques minutes là-haut dans la mélasse, deviendra une fissure mortelle. Contre toute vraisemblance, Jean préférerait de cette mort rendre Villamont responsable. L'injustice ne parviendrait pas à l'apaiser. En fait, pour la première fois, non, ce n'est pas la première, mais ces expériences-là, mieux vaut les oublier. Pour la première fois, Jean a peur de voler, du poisson, du top au départ, peur de l'isolement en plein ciel. Il n'était pas sûr de lui. Une simple balade pour vérifier les éclairages, lampe ultraviolette et lampe au tableau, phare d'atterrissage, une promenade pour rire d'un quart d'heure. Dans ces cas-là, une seule réaction permise, s'accrocher. Il téléphona à l'hôtel. Françoise était sortie. Il pria de la prévenir qu'il rentrerait tard. Il avait eu l'intention de rappeler pour la voir elle-même au fil, puis la préparation du vol l'occupa de telle sorte qu'il n'y pensa plus. Il fit ce qu'il avait à faire. Mal. Certains pressentiments ne trompent pas. On devrait y croire. Mais cela dérangerait le quotidien et l'on manque d'habitude. À 12 500 mètres, avec un régime de 12 000 tours, les commandes cessèrent d'obéir. Jean avait dû se laisser piquer par un manque de repères extérieurs. Un accident banal, ni rare ni dangereux. On dégèle les gouvernes en perdant de la vitesse. Le pilote alors prend de l'altitude, la montée freine et ramène l'appareil aux conditions normales de vol. C'était l'habitude de Jean. Presque malgré lui, sa main tira sur le manche. Et, tout à coup, le tableau de bord disparut dans un brouillard. Ce n'était pas le brouillard extérieur. La nuit resplendissait. L'air froid semblait jaillir de la clarté des étoiles. Mais, aux étoiles du ciel s'adjoignaient d'autres astres qui étaient dans les yeux de Jean. Le variomètre sortait d'une brume où la commande d'armement restait engloutie. Puis c'était au tour du gyrocompas de se matérialiser, à l'altimètre de se désintégrer. Le tableau de bord ressemblait à un puzzle cybernétique dont les pièces se fussent disloquées ou remises en place d'elles-mêmes. Trouble de la vue, pensa-t-il lucidement. Il était encore lucide. Assez pour s'apercevoir qu'il tirait toujours sur le manche. L'altimètre sortit de la brume, 45 000 pieds. Le voyant rouge s'alluma, basse pression. Jean, lentement, repoussa le manche. À partir de cet instant, il ne sut plus ce qu'il faisait, mais il le fit. Alors que le thermomètre de Thuyer annonçait 720 degrés, que l'accéléromètre semblait se dérégler et que les lampes baisse de niveau lui faisaient signe. Des bouchons de glace obturaient le réacteur. Écrasé par l'accélération, sentant le piège, son second corps, frémir et balloter d'une aile à l'autre, Jean actionna la commande « secours d'oxygène », sans réfléchir parce qu'il respirait mal. Entraîné dans une chute folle, tâtonnant au milieu de commandes invisibles, il ouvrit les aérofreins pour diminuer la vitesse, réacteur stoppé, lié, aveugle, au poisson changé en obus, il tenta une manœuvre encore, puis il s'abandonna. Le dispositif de rallumage en vol ne fonctionne pas, ou bien il n'a pas su le faire fonctionner. On est encore plus près du ciel que de la terre, du ciel qui n'est pas un abri, un monde ouvert, mais un couvercle qui s'abaisse aussi vite que l'avion tombe, à 100 mètres par seconde, et qui l'écrase, du ciel qu'on ne voit plus. Ce n'est pas la vrille, pourtant, simplement un plané, un peu rapide. La recompression brutale est comme une faim qui n'excluerait pas la nausée. Le sol qui monte vers eux à toute allure va s'entrouvrir pour les recevoir. 75 secondes, 70, 65, et l'on s'enfoncera tous deux dans les profondeurs de la terre. Jean ferma les yeux, les ouvrit, il voyait clair de nouveau, il n'avait plus du tout peur. Il sortit calmement à la main le train et les volets. Marignane est sous lui. Lorsque ce matin-là, Jean regagna son hôtel, il découvrit que Françoise était partie. Elle lui avait laissé ce mot. « Mon chéri, je ne veux pas être un obstacle à ta liberté, quoi que tu entendes par ce mot. Je m'en vais à Aix, chez mes amis. J'y resterai 2 ou 3 jours. Amuse-toi bien. Françoise. » Il n'eut pas la force de rire. Quelques heures de sommeil dans un hôtel de Marseille l'avait abruti plutôt que reposé. Il souffrait de la tête, migraine classique qui suit toujours les troubles de la vue. Il monta dans sa chambre mais ne se coucha pas. Assis au pied du lit, les mains aux tempes, il se prit à songer à l'avenir. Des sujets de réflexion sont plus réconfortants. Il avait toujours su qu'un jour, il ne pourrait plus voler. Mais il n'aurait pas cru, la veille, que ce jour fût si proche. Il atteignait l'âge pourtant. Quel âge avait Rola ? 48 ans à peine. Mais depuis des années, il ne volait plus. Pour finir comme Rola. Directeur des essais dans un centre. Je n'en suis pas là. Il tiendra le coup, encore. Combien de temps, avec ce risque abominable, de revivre sa dernière aventure, dans des conditions pires? 1 an? 6 mois? Il se leva. Ce n'est pas sérieux. Il se sentait en pleine possession de lui-même, au sommet de sa puissance physique, ayant, une fois pour toutes, mis un terme aux excès. Sa passion même pour Françoise ne le rendait pas fou à ce point. Il n'acceptait pas qu'elle le claque. Et l'alcool? 1 verre, 2, jamais 3. tout ça pour rien? Une telle discipline pour en arriver à... un malaise sans importance, quoi. Il faut bien que des histoires comme celle-là nous tombent dessus de temps en temps, on n'est pas des dieux. Mais malgré tout, malgré la contrainte qu'un pilote d'essai s'impose à chaque heure, il a toujours vécu comme s'il était un dieu, infaillible, increvable, immortel, ça va sans dire. Décrocher ? Non, merci. On ne lui demandera pas la permission.